Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer le message, donc dans 3 semaines, je vous donne rendez-vous à Montsulaire. Et dans 3 semaines, mon un jour, c'est-à-dire le samedi 26, n'oubliez pas de vous inscrire au concert. Alors vous allez me dire, mais ça c'est pour les jeunes, c'est plus pour des vieux comme moi. Pardon ? C'est pour les jeunes ? Depuis quand Héritage, qui remet en vogue nos vieux cantiques, sur toi je me repose, n'est-ce pas ? Depuis quand c'est pour les jeunes, ça ? C'est aussi pour les vieux comme moi ? Mais oui, mais oui. Et vous êtes l'église la plus proche pratiquement de Montsulaire. Toutes les autres églises du CNEF 67 sont beaucoup plus éloignées que vous. Ce serait quand même, enfin pas incroyable, que personne de Montsulaire vienne, ou quasiment un ou deux. C'est bien, alors là ça me fait plaisir. Et antidote, alors bien sûr, j'ai pas fini, merci pour antidote, ce sont 10 musiciens de l'Institut biblique de Genève qui viendront, et vous savez, MMK c'est bon aussi, c'est pour les jeunes MMK, mais Héritage c'est plutôt pour notre style, notre âge, n'est-ce pas? Donc c'est un concert intergénérationnel pour tous les âges. Alors, c'est pas cher, vous allez me dire, c'est 7 euros. Et 1 euro seront reversés aux selles qui parrainent notre concert. Donc, c'est vraiment pas cher. Quand je vois que certains concerts dans le monde, c'est 200 euros la place, et il y a un groupe anglais qui demande 900 euros la place. Et il n'y a pas de reversion à une association humanitaire, n'est-ce pas ? Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. C'est 7 euros encore quelques jours. Après, ça montera un petit peu. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous scannez le QR code, normalement l'affiche est là-bas, et j'ai des flyers encore qui sont disponibles tout à l'heure, si vous en voulez, vous en prenez, je les mettrai là-bas. Voilà, ça c'était pour la partie pub. Donc maintenant c'est le message. Victor, je voulais tout à l'heure intervenir durant les annonces, mais je me suis dit, tu as tellement calé le truc que je ne voulais pas te chanter. Hein. Voilà. Alors ce matin, et je me suis pas mis en rapport avec Victor, ce matin, j'aimerais parler d'un thème. Pour une fois, je ne fais pas un message textuel, mais un message thématique. Et ce message thématique portera sur, ça va être ta joie, l'adoration. Eh oui. Et nous allons ouvrir la Bible, Apocalypse 22. Alors là, ça adore. En Apocalypse, adore à la fin. Et un chapitre super. Nous sommes déjà dans la Nouvelle Jérusalem. Et quand Jean a vu tout ça, il est tombé carrément par terre devant l'ange et il voulait l'adorer. Et dans la conclusion de Apocalypse 22, il est dit, « Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Donc le message portera sur l'adoration. Et ce matin, je ne veux pas faire de la sémantique. Voir qu'est-ce qui est le plus important, est-ce qu'adorer c'est plus important que louer, comment ça se concoque les deux. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations, je vais simplement dire que adorer c'est une forme encore plus, un petit peu plus haute que la louange. Quand l'homme adore, il est pris de la tête aux pieds. C'est ce que Jean était pris de la tête aux pieds, et il est tombé face contre terre. Adore Dieu. L'adoration, c'est la locomotive de la prière. Parce que Dieu est à la fois le sujet et le centre. Ça, il faut le faire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le sujet est le centre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu? Quand je veux faire adorer une assemblée Dieu, qu'est-ce que je dois surtout avoir comme ligne de direction? Lorsque je veux adorer Dieu, lorsque je demande à ce qu'on adore Dieu, il faut que je mette les attributs de Dieu, comme dans un microscope, et que je regarde, que je les contemple, que je les étudie, que je les apprécie. Alors qu'est-ce qu'on doit, quels sont les attributs de Dieu qu'il faut mettre en avant? Alors vous allez me dire, mais c'est l'amour, mais pas que. Sa majesté, sa sainteté, sa triple sainteté qui nous dépasse, sa puissance, sa miséricorde, sa patience, sa grandeur. On est là. Oh ! C'est le fondement, le socle, le cœur de la prière biblique, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est pas le concert, c'est Dieu. Et quand vous étudiez les grandes prières de l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu est vraiment au centre, sa personne, ses attributs. Par exemple, quand je lis le chapitre 9 de Néhémie, quand je lis la prière de Néhémie au chapitre 9, j'ai une liste impressionnante. Je vous les cite juste quelques-uns. Je trouve le mot éternel, unique, fidèle, compatissant, omniscient, omniprésent, lent à la colère, vivant, généreux, patient, redoutable. Tout ça dans une prière, vous vous rendez compte? Vous pourrez lire le texte par vous-même, chapitre 9 de Néhémie. Pareil au chapitre 9 de Daniel. Pareil au chapitre 9 de Esdras. D'ailleurs, c'est un trio là. Esdras 9, Daniel 9, Néhémie 9. Vous avez un arc-en-ciel des qualités de Dieu qui sont mis en avant dans la prière des prophètes. Donc, adorer Dieu, c'est nourrir notre esprit des attributs de Dieu. C'est épurer ma pensée, où il y a tellement de choses qui se bousculent, par la sainteté de Dieu. C'est élargir mon cœur à la beauté de Dieu. Il est donc vital pour nous de stimuler l'adoration. Je suis content et je ne me suis pas consulté avec Victor, je suis content que l'adoration a été le maître étalon de cette matinée. C'est beau quand les mêmes préoccupations se croisent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire adoration? Dans l'Ancien Testament, la racine du mot hébreu que nous traduisons, je ne connais pas l'hébreu, que nous traduisons par adoration, ça veut dire se prosterner. Et le verbe adorer a pris le sens de rendre hommage à un être divin. Et ça vient de l'hébreu, donc je l'ai pas inventé, hein. Shahar, je ne sais pas exactement si je prononce bien, qui veut dire se prosterner par terre. Certains même tombaient devant, sur la face, jamais en arrière, toujours face contre terre. Louer Dieu ou adorer Dieu, c'est donc une réponse spontanée face à sa merveilleuse personne et à ses attributs, comme je l'ai déjà dit. D'où aussi pour nous, si nous voulons adorer, d'avoir une bonne connaissance de ce Dieu. Une connaissance profonde, intime, précise de la personne de Dieu. Pour prier correctement, pour adorer correctement, Dieu lui-même doit être la base, le fondement de notre prière. Encore une fois, je cite Néhémie. Au chapitre 1, regardez comment Néhémie commence sa prière. On n'est pas au chapitre 9, au chapitre 1. Je dis, je cite Néhémie, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements, que tes oreilles sois attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison, nous avons péché. Quand vous regardez ces deux, trois phrases, il commence par dire « Ô Éternel ». Nous disons souvent si vite « Seigneur, Seigneur, Seigneur ici, Seigneur là ». C'est bien, parce qu'il est Seigneur. Mais Néhémie nous donne l'idée « Ô Éternel ». Ce Dieu illimité dans le temps. Il commence comme ça, par un Dieu illimité dans le temps. Dieu des cieux, il dit après. Un Dieu illimité dans l'espace. Et il continue. Dieu grand et redoutable. Illimité dans sa puissance. Toi qui gardes ton alliance, un Dieu fidèle. Toi qui fais miséricorde, un Dieu qui nous aime. Que ton oreille soit attentive. Un Dieu qui nous écoute. C'est super ça. Un Dieu qui nous écoute, heureusement. Tes yeux sont ouverts. Un Dieu qui nous voit. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment. Un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui est vraiment vivant, qui est capable d'écouter les créatures qui crient à lui. C'est comme ça que la prière commence par Néhémie. Moi, je sais tout de suite, Seigneur, écoute, j'ai besoin de ceci, tu ne pourrais pas faire que... Non, non, Dieu, il commence vraiment par poser les fondements qui caractérisent Dieu avant d'aller aux demandes. Il faut que j'enlève mon gilet, votre amour chauffe. Amen. Voilà. Donc, adoration, c'est reconnaître que Dieu est grand et que je suis petit. Ça commence comme ça. Dieu est là, moi je suis là, et je m'adresse au Dieu qui est grand. L'adoration, c'est une attitude d'admiration, mais aussi d'humilité, de reconnaissance devant un acte de générosité, de bonté imméritée. Un exemple, c'est souvent Méphibosheth. Vous avez déjà entendu parler de cet homme de l'Ancien Testament qui était boiteux des deux pieds et qui était invité tous les jours à la table du roi David. C'était le fils de Jonathan qui a perdu sa vie sur un champ de bataille. Et cet exemple nous montre un peu comment... Et Dieu pour nous, lorsqu'il prend connaissance que David, de la bienveillance de David, qu'il invite à un festin de roi tous les jours, il ne comprend pas. Et Méphibosheth se prosterne devant David et presque il l'adore tellement, il est confondu par la générosité d'un roi qu'il invite, lui, le handicapé, pardon, à sa table. Immérité complètement. Et ça le transporte de joie. L'adoration est une prise de conscience de notre faiblesse, de la petitesse devant ce grand Dieu juste et miséricordieux. Vous savez, quand nous taillons Dieu à notre image, quand on a juste une petite dimension de Dieu qui est juste un peu plus grand que nous, ben, l'adoration perd toute sa raison d'être. Mais quand Dieu nous semble petit, on n'a plus tellement envie d'adorer. Martin Luther, un jour, a dit à un ami, il s'appelait Spalatin, « Monsieur, vous avez un problème. Vous avez un problème. Votre Dieu est trop petit. Votre Dieu est trop petit. Comment est notre Dieu? Il est grand ou il est petit? Notre Dieu, quelle taille a-t-il? A-t-il la dimension de votre petit jardin, de votre église? Ouf, l'église n'est pas parfaite, hein. Dieu c'est ça peut-être, pas trop parfait non plus à l'image de l'église. De votre quartier, où l'ambiance n'est pas bonne, de votre ville, ce Dieu serait-il un peu comme ça? Quand notre vision de Dieu est juste, nous reconnaissons notre pauvreté. Dans notre pauvreté, qu'il est grand, qu'il est saint. redoutable, plein de grâce et de miséricorde. Et c'est alors que notre adoration va prendre de sa profondeur. Alors, on l'a sans doute déjà prêché ici, pour adorer Dieu, il faut détrôner tout ce qui prend sa place. Pour pouvoir adorer Dieu, il faut ôter des dieux qui se sont peut-être greffés là-dedans, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un scoop ce que je raconte ce matin. Je pense que c'est assez dit tous les dimanches. Dieu réclame la première place. Référence à Victor, là. La Victor. Dans notre vie et dans nos pensées. Adorer Dieu, c'est un commandement. Ce n'est pas seulement une option que les chrétiens ont, mais c'est un commandement. Tu adoreras Dieu, hein, n'est-ce pas ? Lors de la troisième tentation dans le désert, face à Satan, qui disait au Seigneur, « Je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores. » Jésus lui a répondu, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors déjà, le diable, c'est un sacré coquin, n'est-ce pas ? Il veut donner à Jésus ce que Dieu lui a déjà donné 1000 ans auparavant. Quand dans le psaume 2, David dit, « C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Le diable lui dit, il est rusé et tordu, il dit, je te le donnerai. Ben, Jésus n'en avait pas besoin de ce truc-là. Dieu lui avait donné déjà au travers du psaume 2 de David 1000 ans auparavant, hein, n'est-ce pas ? En fin de compte, il voulait lui donner, Satan, sans le faire passer par la croix. Ça, c'était le problème. Et Jésus n'est pas tombé dans le panneau. Quand Pierre lui a dit, écoute, hein, n'est-ce pas ? Seigneur, ne crois pas que tu vas mourir, mais je serai là, hein. On a vu qu'il était là, Pierre. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, sans la croix. Alors, dans nos vies de prière, souvent, nous n'avons pas envie d'adorer parce que nous sommes préoccupés, c'est vrai, de nos propres problèmes personnels, de nos bobos, des fois. Des fois, c'est que des bobos, des fois, c'est des choses plus sérieuses, n'est-ce pas ? Mais dessus, nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes. Même de nos grands projets. J'ai un grand projet à vous soumettre, les frères et sœurs, hein, n'est-ce pas ? Je peux être préoccupé de ça et oublier complètement Dieu. Et ça sonne bien quand même, n'est-ce pas ? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant des statues, comme font certaines tribus. Mais comme le dit Tozer, l'essence de l'idolâtrie, c'est de nourrir notre adoration avec des pensées qui ne sont pas dignes de Dieu. Beaucoup de choses légitimes et illégitimes peuvent empêcher la vraie adoration. Et toutes les choses, même légitimes, peuvent constituer un affront à la majesté de notre Dieu. Remarquez encore un détail. Quand Jésus dit « Tu adoreras Dieu et tu le serviras lui seul », le Seigneur associe adoration et service. Celui qui adore, il sert Dieu. Celui qui sert, adore Dieu. Les deux vont ensemble. On ne peut pas dire « Ah, moi j'adore juste le dimanche, et puis le restant de la semaine, je fais ce que je veux, je suis libre. » Non. Celui qui adore réellement finit par servir Dieu. Et celui qui sert Dieu de tout son cœur finira par l'adorer. Les deux vont ensemble. On ne peut pas charcuter. Ça, c'est ça. Ça, c'est autre chose, n'est-ce pas ? L'adoration, c'est le starting block pour notre vie de prière. Vous savez, quand les athlètes démarrent leur course, vous avez vu les Jeux Olympiques, ils s'accroupissent, n'est-ce pas ? Je ne vais pas le faire maintenant. Ils calent leurs pieds dans des socles appelés les starting blocks et les mains sont bien calées sur la ligne, pas au-delà de la ligne, bien sur la ligne. Les coureurs doivent être correctement positionnés avant de s'élancer avant le top départ donné par le pistolet de l'arbitre. Alors, s'ils démarrent trop tôt, ils sont disqualifiés. De même que l'adoration doit commencer correctement avec une notion juste de la personne de Dieu. Sinon, nous risquons d'être disqualifiés. Sinon, ce n'est pas de l'adoration. Et c'est cette connaissance riche de Dieu qui donne l'alignement, l'élan et la trajectoire à toute notre vie de prière. Est-ce que nous sommes des adorateurs de l'Éternel, ô Éternel, Dieu de l'univers ? Nourrir des pensées correctes sur Dieu et dans un sens avoir tout bon. Nourrir nos prières sans une connaissance de Dieu et dans un autre sens avoir tout faux. Nous avons désespérément besoin de voir qui est Dieu. Lisons le récit de la révélation de Dieu, nous l'avons chanté. Mettons ses attributs, contemplez Jésus, sa nature, ses paroles, méditez sur la sagesse infinie de Dieu, les beautés de sa création. Ô Dieu, tu es grand, comme tu es grand, n'est-ce pas ? Nous l'avons chanté également. Son amour, évidemment, pour nous qui est comme un fleuve immense, qui nous entoure et qui nous emporte. Quand je pense à cela, je ne peux que m'exprimer en adoration, par la prière et par le chant. Alors l'adoration, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. Psaume 115, verset 1. « Non pas à nous, Éternel, pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Le but de l'adoration, c'est de donner gloire à Dieu. Et la gloire de Dieu, ce sont tous ses attributs réunis, comme un bouquet de fleurs. Quand un jeune homme amoureux de sa fiancée lui offre un bouquet de fleurs, il donne un bouquet de fleurs avec toutes les couleurs. Quand nous voulons adorer Dieu, nous avons un bouquet de fleurs devant nous avec toutes les couleurs. Et c'est ça qui provoque l'émerveillement. L'adoration est pour Dieu seul. Et pour adorer Dieu, nous avons besoin de l'aide et de la collaboration de l'Esprit de Dieu. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Psaume 51, verset 17. Il m'est déjà arrivé de voir dans certaines églises, au moment de l'adoration et au moment du moment de prière, d'adoration, que quasiment personne ne prie. Et un silence pesant s'installe. Alors c'est surtout un moment gênant et difficile pour celui qui est de direction, n'est-ce pas ? Quand on dit « maintenant prions » et c'est le silence. Personne n'a rien de bien beau à dire à Dieu. Le silence dans l'église, un silence pesant. Alors la question se pose, pourquoi les gens ne prient pas ? Pourquoi les gens n'adorent pas ? Il faut que nous, chrétiens, apprenions, avant de commencer l'adoration, à demander à Dieu, quand nous venons le dimanche matin, quand nous sommes derrière le volant de la voiture, que nous lui disons, « Seigneur, ce matin, il y aura un moment de prière et d'adoration. Ouvre mes lèvres pour que je puisse prier et pour que ça sente juste. » Ah, souvent, on a d'autres chats à fouetter hein, quand on vient en voiture. Écoute, il est temps, hein, pourquoi tu ne t'es pas habillé à temps ? Maintenant, on est énervé, on arrive, on est là, et puis il faut adorer, mais ce n'est pas possible, une telle chose. Comment ce n'est pas possible ? C'est sûr qu'on s'est pris peut-être les pieds dans le tapis, mais est-ce que le sang de Jésus a perdu sa valeur ? Nous pouvons tout de suite aller à la croix. Déposer nos mauvaises réactions, nos mauvaises humeurs. Et nous pouvons rentrer dans l'adoration purifiée immédiatement par le sang de Jésus. Je me souviens de Roy Hessian. Il est parti au ciel depuis maintenant bien une vingtaine d'années, je crois. Il était dans la voiture, il conduisait, et à un moment, il y a eu un truc avec son épouse. Il ne s'est pas montré bien correct avec son épouse. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu lui a dit, demande pardon à ton épouse pour ta réaction, elle n'était pas juste. Il a immédiatement obéi à l'injonction de l'Esprit. Il lui a demandé pardon au volant. Deux, trois minutes après, il arrive dans un carrefour, un rond-point. Il prend le rond-point et un camion arrive dans un mauvais sens. Il percute et Roy Hessen est allé auprès du Seigneur. Trois minutes avant, il pourrait encore demander pardon à son épouse. Le sang de Christ n'a pas perdu de sa valeur si nous sommes fâchés avec notre épouse avant d'aller au culte. Tout de suite, demandons-lui pardon et réglons cette situation parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas quel est notre départ un jour au ciel, mais faisons ça pendant qu'il est encore temps et pour que nous puissions adorer lors du moment d'adoration. C'est bien sûr un combat spirituel. Parce que le diable est allergique à l'adoration. Il ne supporte pas qu'on adore Dieu. Voilà, il ne supporte pas. Il a les poils qui se dressent et les cornes qui sortent quand les chrétiens adorent Dieu. Mais il ne supporte pas ça. Pour lui, garder la bouche fermée, détourner nos pensées sur autre chose, ben ça fait partie de sa stratégie. Écoutez, demain, il ne faut pas que j'oublie, pendant qu'il y a le moment d'adoration, il ne faut pas que j'oublie que j'aille acheter dans ce magasin cette machine qui est en promotion. Mais ça fait son affaire. Quand nous sommes détournés de l'adoration et que nous pensons à mille et une choses que nous devons faire, que nous n'avons pas fait et qu'il faudrait faire, ben lui a tout gagné. C'est tout bénef pour lui. Quand les chrétiens ont la bouche fermée, lui, il fait ça. Quand les chrétiens adorent Dieu en esprit, en vérité, c'est une victoire à la gloire de Dieu. Quand nous adorons Dieu, dit le psaume 22, Dieu est au milieu de nous. Pourtant, tu es le sien, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Waouh! Yann Newberry, qui m'a inspiré pour ce message, a écrit ceci. J'ai ici le bouquin. À une occasion, il décrit une expérience qu'il a faite. À une occasion, nous avons invité nos voisins au culte. Le voisin. Ils sont venus. Par la suite, nous leur avons demandé ce qu'ils en avaient pensé. Savez-vous ce que disent les voisins qui ont été invités au culte? Ils nous ont fait remarquer que pendant le moment d'adoration, ils avaient senti que Dieu était au milieu de nous. Ce n'est pas le prédicateur qui les a convaincus, c'est le moment d'adoration. Tout à coup, ces voisins invités ont senti « Dieu est là ». Et c'est ça, le but de l'adoration, c'est que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais si le peuple se tait, il n'est peut-être pas là. Si le peuple se tait. Un autre ami, qui est maintenant auprès du Seigneur, a raconté un jour comment deux personnes se sont converties sur le champ quand ils ont eu pendant un moment d'adoration, et je crois que c'était aussi un moment de baptême, qu'ils ont vu que Dieu était présent, ils ont dit au prédicateur, « Nous voulons devenir comme vous. » Ça, c'est de l'évangélisation. Ils n'ont même pas besoin de faire un appel. Hein. Pas besoin de Billy Graham pour ça. Ils ont vu Dieu est présent. « Je veux devenir comme vous. » Super. Une autre vérité. Conséquence de l'adoration. Dieu s'occupe de nos ennemis quand nous l'adorons. Mais d'où est-ce que je tire ça? D'où est-ce que je tire ça? 2 Chroniques 20, verset 22. Je lis, vous n'avez pas besoin de le prendre. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Tiens, Et ils n'avaient pas besoin d'envoyer un missile. Ils n'avaient pas besoin de mobiliser toute une armée. Au moment où ils commençaient les chants et l'adoration, Dieu a placé une embuscade. Et l'affaire était réglée. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël. Pardon ? Oui, c'est le peuple d'Israël, d'accord. Mais dans le Nouveau Testament, c'était pareil. Quand les apôtres priaient, le lieu tremblait. Et quand l'Église priait pour Pierre, les chaînes tombèrent et les portes de fer s'ouvrirent. Quand nous prions, est-ce que nous pouvons croire, quand nous prions et quand nous adorons, que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il peut faire tomber nos chaînes, les portes de fer qui sont fermées, il peut les ouvrir. Il n'a pas perdu, il ne s'est pas usé, le Seigneur, au travers des siècles et des millénaires. Oh, maintenant je suis un peu... Ouh, non, Dieu ne s'use pas avec le temps. Il peut faire ouvrir les portes de fer, des cœurs verrouillés, des blocages entre chrétiens peuvent sauter. Parce qu'il n'a pas perdu sa force.
Oh, ouais, ah bon?
Oui, oui. Amen. Un jour, j'étais assis comme vous, gentiment, sur une chaise. Et j'ai entendu un prédicateur, je ne sais même plus vraiment qui c'est, si j'ai un peu une idée, qui a dit que si on ôtait le Saint-Esprit de nos églises, personne ne remarquerait rien. Wow! Le programme se déroulerait comme d'habitude. Le Saint-Esprit est à l'œuvre quand le peuple adore. Et les gens peuvent voir la différence. C'est pas personne ne remarquerait rien, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que, quelquefois, nos églises peuvent... Le culte peut être terne et monotone. Et c'est vrai, on peut ne pas rien remarquer. L'ennemi de l'adoration, je vais juste... Et je termine là, je ne vais pas user de votre patience. L'ennemi de l'adoration peut être l'irritation, on en a parlé avec, n'est-ce pas? L'amertume, la rancune, le doute, les soucis, la crainte, l'incrédulité, l'esprit négatif, bof. Ce sont des ennemis de notre âme qui doivent, si on veut adorer, être arrachés et extirpés par Dieu pour que Dieu puisse pleinement prendre la place. Nous pouvons apporter notre misère à Dieu même si nous avons franchit la porte de l'Église, je l'ai déjà dit, et que la culpabilité liée à nos sentiments, peu recommandable, nous bloque dans la louange. Parce que le sang de Christ n'a pas perdu sa valeur. Alors je termine par une question. Comment se porte notre adoration personnelle et collective? Je termine juste par une question. C'est tellement important l'adoration. Que Dieu soit au centre. Je vous souhaite toutes les bénédictions du Seigneur pour les temps à venir. Merci.